L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, dans lequel nous retrouvons en ce lundi l'Université des sciences et pratiques gastronomiques de Quimper. C'est une association, malgré ce nom un peu impressionnant, une association qui défend une alimentation de qualité, mais vous le savez, ça veut dire beaucoup de choses. Elle s'occupe surtout des enjeux liés à l'alimentation. À force de nous écouter, vous savez que l'alimentation, c'est une question aussi d'agriculture, de santé, de modèle économique, de système de distribution, de culture aussi, bien sûr. Aujourd'hui, on va donc évoquer encore tous ces sujets, mais au travers d'un rêve. On a le droit de rêver. En fait, c'est un projet qui verra peut-être le jour un jour. Une cantine populaire, éphémère. Notre invité l'avait rêvé pour le quartier de Pénars à Quimper. Ça n'a pas pu se faire, en tout cas pas pour l'instant. Bonjour Xavier Hamon.
Bonjour Véronique.
Alors, on va expliquer cette notion de cantine populaire éphémère, bien sûr, dans cette émission. Mais d'abord, on va préciser d'où est venue l'idée, qu'est-ce qu'il y avait derrière, notamment des injonctions.
Bah oui, c'est-à-dire le contexte alimentaire, on le voit bien dans toutes les communications qui sont faites sur le sujet, elles sont essentiellement faites d'injonctions. La première injonction, je ne sais pas si on se rappelle, mais il y a quelques années, c'était manger 5 fruits et légumes par jour. Donc c'était censé effectivement changer les comportements alimentaires. C'est un fiasco total, hein, puisque les maladies liées à l'alimentation n'ont jamais cessé d'augmenter. Mais c'était la première grosse injonction, à grand renfort de publicité, comme si ça se décrétait par une déclaration comme ça d'intention. Et puis est arrivé le tri des déchets, et une espèce d'éducation comme ça, à l'injonction, encore une fois, quels que soient les moyens mis à disposition des citoyens d'ailleurs. Moi je me souviens très bien de mon épisode de restauration dans le centre de ville de Quimper, où on nous demandait déjà de trier nos déchets, mais où rien n'était trié. Finalement. Donc on séparait dans nos boutiques les déchets.
Ah oui, en tant que commerçant, oui, bien sûr.
En tant que commerçant. Oui. Mais tout était collecté dans la même benne.
Ah oui, voilà. C'était pas la peine.
Depuis, j'imagine que les choses ont évolué, mais ça faisait partie des paradoxes. Et puis après, il y a l'anti-gaspi. Ne gaspille pas ta nourriture. Comme si effectivement les citoyens étaient à eux seuls responsables de tout ce gaspillage alimentaire. Puis maintenant, on arrive à cultive ton jardin. Donc on apprend aux gens à cultiver leur jardin, où qu'ils soient, et à chaque fois sans analyse du contexte dans lequel ça se passe, comme si on devait se référer à une norme qui est de manger des légumes, trier ses déchets, pas gaspiller, cultiver son jardin.
Alors qu'on n'a peut-être pas de jardin d'ailleurs.
Alors qu'on n'a peut-être pas de jardin, exactement. Alors qu'on n'a pas... C'est le premier paradoxe, ou que... Je pense au centre-ville, effectivement, où il y a parfois des initiatives citoyennes de récupérer de l'espace public pour cultiver. Si on n'a pas l'autorisation de la municipalité, des élus, de la collectivité, c'est quand même compliqué de cultiver son jardin. Même si, par ailleurs, il peut y avoir des jardins partagés. Mais enfin, tout ça n'est pas naturel. Mmh. Et qu'on peut vouloir en permanence dicter le comportement des gens. Il y a aussi tout un contexte économique, social, de travail, de famille, de culture, qui fait que c'est pas forcément possible.
Dans le fond, qui est-ce qui décide de ce qu'on mange en vrai?
Il y a assez peu d'instances quand même qui décident de ce qu'on mange. La première instance, on va dire la plus visible, surtout en ce moment, c'est le ministre de l'Agriculture, qui prend des positions très pro agro-business et FNSEA. Le deuxième, c'est la Chambre d'Agriculture. Évidemment dirigé en grande majorité par la FNSEA.
Ce qui n'a pas toujours été le cas dans le Finistère.
Été le cas dans le Finistère.
Il y a eu la coordination.
Exactement. Un autre organisme qui décide pour nous de façon indirecte, sans qu'on le sache, c'est la SAFER.
Ah, c'est quoi la SAFER? Il faut expliquer.
C'est une société, donc, qui c'est une délégation pour la gestion du foncier agricole. Donc ce sont des commissions normalement paritaires qui octroient les terres disponibles en agriculture à tel ou tel type d'agriculture.
Ouais, c'est ça, que quand on veut acheter une terre agricole, on passe par la SAFER dit oui, non, en fonction du projet, c'est ça qu'on présente
C'est exactement ça, Et en fonction, effectivement, de la couleur politique de la présidence de la SAFER, il peut y avoir des décisions qui vont dans un sens ou dans un autre.
Ah oui, on peut favoriser la concentration des exploitations, par exemple, ou au contraire, favoriser plutôt des petites unités.
Exactement.
Ah oui.
Exactement.
Il y a vraiment une décision politique.
Il y a aujourd'hui en Bretagne un cas emblématique, les communs du Nargoatte dans le Morbihan, où il y a deux projets qui s'opposent, un agrandissement et une création collective plutôt d'agriculture paysanne. Et très clairement, là, il y a un gros travail de lobby, encore une fois, de pression politique sur les porteurs du petit projet, entre guillemets, même s'il est plus pourvoyeur d'emploi que l'agrandissement. Il y a des pressions qui sont faites et la première décision de la SAFER a été mise en suspens, heureusement, mais c'est pas gagné.
D'autres acteurs qui décident de ce qu'on mange.
Ah, il y en a un bien connu par ici, par chez nous, c'est Monsieur Leclerc, Monsieur Édouard Leclerc, le premier commerçant de France, avant toute chose. C'est d'abord un commerçant, il fait très bien son travail, puisque 80% des Français aujourd'hui s'approvisionnent en grande surface.
Oui, il n'est pas tout seul, quand même.
Il n'est pas tout seul.
Toutes les grandes surfaces, quoi, en fait.
Mais c'est un bon représentant pour la profession, je trouve. Il fait très bien son travail. Le paradoxe, c'est que, effectivement, quand on détient un réseau de distribution, enfin, ils sont quand même que 4 ou 5 en France.
Oui, hein, oui, c'est
quand même pas très nombreux. Quand à 4 ou 5, on décide de ce qu'on met dans les rayons ou de ce qu'on met pas, c'est quand même un pouvoir très, très important. Avec un paradoxe en Bretagne, c'est que Monsieur Leclerc, à Landerneau, a monté une fondation d'art contemporain qui en fait un héros de l'art contemporain ou de l'art et de la culture en Bretagne. Donc ce paradoxe, il est quand même difficile à articuler. D'un côté...
Oui, je pense qu'il est sincèrement, d'ailleurs, défenseur de l'art contemporain. Hein.
Très certainement. Mm-hmm. Je mets en parallèle la disparition du centre d'art contemporain public de Quimper. Mm-hmm. Ouais. Au même moment. Mmh. L'un apparaît, l'autre disparaît. Donc, je ne remets pas en question effectivement son amour de l'art contemporain, qui n'est pas du tout mon univers. Par contre, que cette forme d'art, comme cette forme de distribution alimentaire, repose sur si peu d'acteurs qui, à eux seuls, décident de ce qui est montrable ou pas montrable, ça commence à devenir gênant. Voilà.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que finalement, ce sont plutôt des acteurs privés qui décident de ce qu'on mange. Où sont passés les acteurs publics?
Eh bien, je ne les vois plus. En tout cas, je ne les vois plus dans ces décisions-là. On les voit dans... les acteurs publics, ils ont inventé, grâce au gouvernement précédent, ils ont inventé les plans alimentaires territoriaux, qui sont censés être une programmation faite avec les acteurs de terrain de ce que peut être une politique alimentaire territoriale. Donc, dans ces PAT, on va retrouver un petit peu tous les acteurs.
Il devrait y avoir les habitants, normalement.
Et il devrait y avoir les habitants. Alors aujourd'hui, chaque PAT a sa propre gouvernance sa propre dynamique, mais souvent, les habitants, via des associations proches des histoires alimentaires, sont invités à participer.
Les PAT, c'est à l'échelle d'une COMCOM, en général, d'une communauté de communes plutôt, non?
Alors là où ça devient très intéressant, c'est que ça peut être à l'échelle d'une région, d'un département, d'une COMCOM, d'une commune. Toutes les échelles sont valables. Ils peuvent même se cumuler. C'est-à-dire qu'on peut avoir un PAT du Finistère, un PAT de la communauté de communes de Quimper et un PAT de la ville de Quimper. Donc là, on peut commencer à se poser la question de la répétition de l'exercice et que peut-être qu'une concertation pourrait être utile, y compris pour les acteurs de terrain qui, eux, sont associatifs et qui ne peuvent pas se multiplier dans ces instances-là.
Ouais.
Et on arrive, même si l'intention est bonne, on arrive à une multiplication des instances où il est très difficile pour les acteurs de terrain d'être présents partout. Puisque par définition, on est souvent des acteurs bénévoles au départ.
Oui, parce que ça part d'une bonne intention, cette histoire de PAT, de projet alimentaire territorial. Donc on met tout le monde autour de la table. Enfin, vraiment, les acteurs peuvent être multiples. Hein. Ça peut être quoi, par exemple, des acteurs d'un PAT
Les acteurs d'un PAT, ça peut être la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, ça peut être un organisme de formation, ça peut être les équipes des départements, toutes les associations qui, de près ou de loin, traitent de la question alimentaire. Donc ça peut être aussi des syndicats agricoles. La Confédération paysanne pourrait y être, la FNSEA peut y être. Enfin, tout le monde peut y être. Et pour avoir participé à celui élaboré dans le Finistère, c'est vrai qu'au départ, on a pensé qu'on pouvait, ça pouvait être un lieu où on pouvait poser nos interrogations. Et il y a eu, ça a permis au moins la rencontre des acteurs.
Ouais, c'est ça. Il y a eu un peu de débat, on va dire, quoi.
Alors, débat, il n'y a pas eu.
Ah, dommage.
Il y a eu de l'écoute. Il y a eu de l'écoute, on a pu poser certains sujets, mais assez vite, on est retombé dans une espèce de soit d'entre-soi, soit de lieux où on pouvait poser les choses, mais finalement ça ne se traduisait pas concrètement dans les plans alimentaires.
Oui, parce que le plan, il est censé mettre en œuvre des actions concrètes pour assurer, je ne sais pas, une certaine autonomie alimentaire de la commune ou de la communauté de communes.
Alors, ça dépend du choix du politique. Ce PAT, il peut choisir un diagnostic.
Ah ouais.
Mais il peut choisir de dériver vers un plan d'action. Mmh. Il peut même faire les deux. Ça peut être dans un premier temps un diagnostic et puis après un plan d'action. Sur le terrain, les questions qui ont été posées par les acteurs comme l'USPG ou l'Alliance des cuisiniers ou d'autres, c'est plutôt justement l'attribution du foncier, on y revient, ouais, pour une autre production agricole, l'installation de nouvelles formes d'agriculture, et sur le terrain, on n'a pas vu la traduction politique.
Ah oui.
Ou très peu en tout cas.
Bah, c'est peut-être un peu trop récent, non ? Est-ce qu'ils sont encore en cours d'élaboration, ces projets alimentaires de territoire, peut-être aussi ? Ils ne sont pas encore passés au stade action, justement, non ?
Peut-être, mais là, nous on est pressés. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille le sujet. Ce n'est pas comme si ça arrivait sur le terrain maintenant. Ça devait être un outil au sujet de... au service de politique alimentaire qui avait été pensé auparavant et qui était ajusté, etc. Sauf qu'on voit bien que ça a souvent servi de départ d'une première réflexion alimentaire. Donc, comme si la question se posait depuis hier matin.
Ouais, c'est ça. Mais parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de réflexion sur l'alimentaire, réflexion globale, en fait. C'est bien révélateur.
Effectivement, parce que si on revient sur qui décide, on voit bien que dans les structures municipales, par exemple, il n'y a pas d'élu à l'alimentation.
C'est ça. Ouais.
Et cette question, elle est diluée entre plusieurs élus qui ont diverses fonctions, et l'alimentation, c'est un petit bout de leur mandat, et parfois ils viennent même se heurter au mandat de leur collègue, ou prérogatives de leur collègue. C'est arrivé quand des questions alimentaires côtoient des questions de commerce ou des questions de vie associative, et sur le projet dont on va parler, c'est ce qui arrive, et il peut y avoir 3, 4, 5 élus qui arrivent sur le même dossier, mais avec des enjeux différents et parfois divergents.
C'est ça.
Alors qu'on parle d'une seule chose, en fait, c'est de l'alimentation pour les habitants et
c'est
pour
ça.
Les citoyens.
Alors, justement, il faut quand même qu'on en arrive à cette idée de cantine populaire éphémère. Populaire, c'est un mot important quand même. Hein. Enfin, ouais. Bon, cantine, c'est vrai que ça peut déjà poser question. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on va analyser les termes. Qu'est-ce que vous préférez ? On analyse d'abord cantine.
Allez, cantine.
Cantine. Alors, bon, c'est vrai que ça fait bizarre, cantine. On pense aux petits-enfants, là, à l'école et tout ça.
Oui. Non, ça peut être... On avait la cantine à l'armée aussi,
oui,
pour partir avec tout
le barbe. La malle avec une gamelle dedans, ok.
C'est ça. Non, cantine, c'était parce que... Pour les cantines et populaires, les deux sont liés. Effectivement, il y a une volonté de démystifier le moment du repas et de le sortir d'une représentation plutôt élitiste.
Ouais.
On en a parlé plusieurs fois, mais le mot gastronomique, on veut aussi le revendiquer de façon populaire. Et une façon de revendiquer de façon populaire, c'était de lui adjoindre la notion de cantine, qui ne fait pas référence à un cérémonial, qui ne fait pas référence à un art de la table particulier, mais qui fait référence plutôt à la capacité de se mettre autour d'une grande table à plusieurs.
Voilà, on mange tous ensemble, quoi.
Ouais. Ouais. Et cette cantine, c'est vraiment ça. On l'imagine dans notre imaginaire, c'est plutôt des grandes tablées sur lesquelles on vient s'installer ensemble, pour manger ensemble, pour discuter ensemble, plus que pour assister à une performance culinaire. Voilà.
Ok. Populaire, donc, on l'a dit, c'est un peu lié, hein, quand même.
Et populaire, c'est bien parce que, en fait, la difficulté qu'on éprouve sur les questions alimentaires, c'est qu'on ne tient jamais compte de qui on parle, et qui mange, et qui sont ces mangeurs, et d'où ils viennent, et quelle est leur histoire, quelle est leur culture, d'où ils viennent, quelle est leur pratique de la cuisine chez eux. Encore une fois, face aux injonctions, il y a des réalités. Et c'est à partir de ces réalités qu'on peut vraiment construire un projet alimentaire. Je peux vouloir vous envoyer très très loin dans ma vision de la gastronomie, mais si je ne regarde pas d'où vous partez et que je vous largue au passage très rapidement, je ne vois pas l'intérêt. Là, on ne fait rien en commun. Donc, populaire, c'était vraiment l'idée de profiter du dispositif cantine, on se met ensemble, pour commencer à... En fait, c'est plus un espace de rencontre qu'un espace de cuisine au départ. Et cette rencontre-là, elle va permettre de nous connaître, qui on est. Et l'alimentation, la cuisine, le repas devient un prétexte,
mmh,
un prétexte
sûr.
À échanger. Mmh. Et c'est grâce à ce prétexte-là qu'on va affiner peut-être une vision commune, même si on a des histoires différentes. Personne n'est imperméable à la question du climat, de l'environnement. L'USPG a été sollicité il n'y a pas très longtemps pour former une équipe municipale de restauration aux enjeux du climat. Et je leur ai dit, mais ils ne sont pas imperméables.
Mmh.
ils connaissent les enjeux. Je ne vais pas les former aux enjeux. On nous rabat les oreilles du matin au soir avec des rapports du GIEC qui sont alarmants.
Enfin, là, il est un petit peu passé sous les radars, parce qu'il y avait d'autres sujets de préoccupation.
Bien légitime par ailleurs, mais pour le coup, c'est quand même des préoccupations qui...
Oui, et on ne les oublie pas.
On ne les oublie pas. Donc, de penser que les gens ne savent pas, ce n'est pas possible. Mais par contre, de partir de là où ils sont, comment ils le vivent, comment ils le ressentent, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir le choix dans leur question alimentaire, et la cantine, c'est l'espace pour en discuter. Donc c'est au-delà du repas, est-ce qu'on a envie de créer une nouvelle agora, un nouveau lieu de rencontre, où on parle de ces sujets-là, mais à partir de ce que les gens vivent et ressentent et d'où ils viennent. Et quand par expérience, quand on commence à dérouler le fil de l'histoire alimentaire de chacun, c'est là que ça devient intéressant et qu'on peut faire des ponts avec une politique alimentaire.
Et alors là, l'échelle du territoire au départ qui était visée, hein, c'était celui d'un quartier, c'est ça ? Enfin, oui. Est-ce qu'il y a une bonne échelle pour faire une cantine populaire éphémère ?
Alors, la bonne échelle, c'est le quartier, c'est le hameau, c'est en tout cas une échelle de vie où les gens peuvent encore se rencontrer et se connaître. À l'échelle de toute une ville, c'est difficile d'imaginer une cantine. Ou alors il faut en faire un concept et puis les gens viennent pour une démarche commerciale, mais non, je pense que l'idée du quartier où il y a un ensemble social cohérent qui peut se rencontrer, ça me paraît intéressant comme échelle.
Et alors on n'a pas parlé du côté éphémère, mais enfin on va peut-être revenir dessus après, mais pour ce qui concerne Pénars, qu'est-ce qui était envisagé concrètement alors ?
Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que la demande venait des habitants.
Ah oui, en effet, c'est intéressant. Ouais.
L'USPG n'a pas de lien particulier avec Pénars, on n'y travaille pas tous les jours, mais par contre, la Maison pour tous, elle a un vrai lien social quotidien depuis des années, entretenu, et a fait ça, lors d'une enquête, a révélé que les gens du quartier voulaient un restaurant. Il n'y a pas de restaurant sur le quartier, il n'y a rien.
Ah oui, il n'y a pas de restaurant.
Il y a un peu d'emporté, mais il n'y a pas de restaurant. Et leur demande, dans une émancipation du quartier, à se dire, pourquoi on serait obligé d'aller en centre-ville pour manger ? Des formes de restauration qui ne nous conviennent pas forcément d'ailleurs, sans préjuger de ce qui est bien ou pas bien, mais en tout cas qui ne leur correspondait pas. Et ils voulaient, donc c'est parti de cette demande-là. Donc ce qu'on voulait y faire, c'était, dans un premier temps, à partir de cette demande d'émancipation, dans son plus noble sens du terme, c'est qu'on se prend en main pour créer notre environnement alimentaire, là pour le coup, et bien comment on vous accompagne ? Et très vite est venue l'idée d'articuler des métiers de l'alimentation, entre autres cuisiniers, mais pas que, la boulangerie aussi à terme, au désir des habitants. C'est-à-dire plutôt que de les laisser créer sous forme associative et bénévole, voire expérimentale, quelque chose, on a voulu l'encadrer tout de suite pour leur donner des billes à ces habitants pour créer, dans un premier temps, une expérimentation. D'où le côté éphémère.
Donc avec des professionnels déjà, des métiers de bouche.
Avec des professionnels locaux. Pour effectivement donner assez vite une dimension artisanale, métier. Que derrière faire à manger, c'est aussi des métiers.
Oui.
À la maison, c'est autre chose, on nourrit sa famille, ou on fait son jardin. Quand on s'adresse à du public, là, il faut quand même des règles, qui s'appellent des règles des métiers de l'artisanat, et qui répondent à des obligations, déjà, mais aussi à des pratiques.
Ouais. Et donc, alors, comment c'était construit ? Enfin, est-ce qu'on demandait aux gens les menus qu'ils avaient envie de manger ? Enfin, qu'est-ce qu'on...
Alors, le dispositif, il était assez simple, parce que ça devient une marque de fabrique de l'USPG, c'est on part justement de la représentation du bien-manger pour les gens. Donc, la première rencontre, c'est qu'est-ce que c'est que bien-manger ? Et on le partage ensemble. Et chacun a sa définition, et on essaye de... Une fois que les mots sont définis, d'aller un peu plus loin. Par exemple, on nous dit souvent, manger, c'est des produits de qualité. Ouais, ok, mais qu'est-ce que c'est qu'un produit de qualité ?
Eh oui.
Et là, on commence à rentrer dans l'affinage. Un produit de qualité, c'est un produit local. Ah bah oui, mais un produit local, est-ce qu'il a toutes les qualités ? Ou un produit sous label de qualité, par exemple sous label bio. Bah oui, mais est-ce que le label bio respecte l'équilibre social ? Est-ce qu'il respecte les gens ? Est-ce que les saisonniers qui sont employés dans le bio sont mieux traités que dans le conventionnel ? Et on s'aperçoit que pas forcément. Donc la définition de la qualité, elle est importante. Souvent, ce qui ressort, c'est le plaisir. Et encore une fois, le plaisir, on le déconstruit. C'est-à-dire qu'on le déconstruit, on l'explicite un peu plus. C'est quoi le plaisir ? Et souvent, le plaisir, c'est de se rencontrer. Et la première demande d'avoir un restaurant dans un quartier comme Pénard, c'était d'avoir un lieu de rencontre, finalement. C'est ça qu'on a révélé. Et encore une fois, la cuisine n'est qu'un prétexte. Mais ce qu'ils veulent, c'est un lieu pour se rencontrer. Ça fait écho aussi à autre chose qu'on a découvert aussi, et on en a fait l'expérience associative, qu'il y a très très peu de lieux aujourd'hui qui peuvent être investis, de lieux publics, qui peuvent être investis de façon naturelle, simple, facile, par les citoyens ou les associations. Il n'y a plus de lieux. L'espace public est confisqué. Et si on n'a pas l'habitude de l'utilisation d'un outil, ça peut être des cahiers des charges à n'en plus finir, qui changent tous les ans, ou alors répondre à des appels d'offres pour pouvoir utiliser. Et l'espace public est monétarisé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des sociétés d'économie mixte qui gèrent des espaces publics, qui sont tenues à des rentabilités qui rendent inaccessibles certains espaces.
Ouais, c'est loué.
Qui sont payés par la collectivité. Et donc, cette demande des habitants d'avoir un lieu, il vient se frotter à ça aussi.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant. Un lieu informel qui ne dépend pas d'une gestion forcément municipale, avec des cahiers des charges impossibles à respecter, etc.
Ouais, où on puisse venir même avec son pique-nique à la rigueur, quoi.
Et oui, mais bien sûr. Et ben oui.
C'est ça.
Ou créer un coin bibliothèque gourmande où on vienne disposer des bouquins, les lire, s'inspirer, venir cuisiner ensemble. Après, le lieu, il devient aussi un lieu de ressources. C'est-à-dire que une des injonctions, c'est aussi vous voulez manger pas cher, faites à manger. Vous êtes gentil, mais il y a des gens qui sont pas équipés, ou qui savent pas faire, ou qui ont pas le temps, ou qui sont dans des situations qui sont pas possibles, tout simplement, qui veulent pas s'approvisionner, en local et en frais. Vous êtes gentil, mais enfin, s'il y a pas de marché à proximité, s'il y a pas de producteur. Et cette cantine-là, elle doit aussi être un outil collectif. Où une partie de la cuisine est un atelier de transformation.
Et des lieux comme les Maisons pour tous, enfin là en l'occurrence ça aurait été celle de Pénard, ça pouvait s'envisager que des MPT soient dotés de cuisine. Enfin, est-ce que ça existe peut-être ?
Alors on n'est pas arrivé jusque-là, mais par contre la MPT de Pénard pour le coup était très mobilisée sur ce projet-là et très soutenante. Et effectivement On n'est pas allé jusqu'à la gouvernance de cet outil, la cantine, même si ça faisait partie du projet, mais on n'a pas pu le mener à bien. Mais on peut imaginer un intérêt de toutes les MPT d'une ville comme Quimper pour se doter d'un outil qui serait partagé, puisque toutes, de près ou de loin, traitent de la question alimentaire.
C'est ça.
Par des ateliers de cuisine, par des sorties dans les vergers, par une sensibilisation. C'est un thème incontournable aujourd'hui. Donc, soit on en fait juste un outil d'animation, soit on en fait un outil pour les habitants dans des projets d'émancipation.
Et alors là, justement, je voudrais qu'on revienne sur ce terme éphémère. L'idée, alors pourquoi éphémère finalement ? Pourquoi pas créer quelque chose de durable ? Enfin, après, il faut trouver le modèle économique, bien sûr. Mais
justement, voilà. Le côté éphémère devait nous permettre de valider quand même certains choix qu'on avait fait avec les habitants. Le choix des habitants, c'était de mixer les cultures alimentaires qui étaient proposées.
Alors c'est vrai qu'à Pénard, en plus, il y a plein de
cultures. Je crois qu'il y a plus de 65 nationalités représentées. Ouais. C'était... Mais encore fallait-il valider tout ça. Il fallait valider aussi les besoins techniques dont on avait besoin pour faire ça. Il fallait valider la dimension du lieu. Il fallait valider la fréquentation.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et ensuite, il fallait valider une gouvernance. Par qui est piloté cet outil-là, à qui il sert. Et ça devait nous servir de démonstrateur pour aller chercher d'autres partenaires. Ce que je dis souvent, c'est que des projets de cantine populaire, pour faire à manger à 12,50€, c'était le ticket moyen qu'on avait imaginé par rapport à un prévisionnel. Quand je vous raconte tout ça, il y a toute la dimension éducative, culturelle, sociale qui est abordée. C'est un travail social, c'est un travail éducatif.
Oui, oui.
Et ce travail-là, il ne pourra jamais, jamais être rémunéré sur les recettes d'un restaurant.
Ben non, bien sûr.
Puisque c'est un travail supplémentaire.
Donc il faut des subventions en plus, quoi, c'est ça.
En tout cas, il faut une participation de tous les services sociaux, éducatifs d'une collectivité, soit par la compétence, soit par du financement. C'est une évidence.
Et combien de temps est-ce que vous aviez prévu que l'expérience devait durer pour justement valider tout ça, enfin valider en tout cas, avoir une idée de tous ces paramètres ?
On avait imaginé une première session de 2 semaines en fin d'année 2021, suivie d'une expérimentation de 3 semaines au printemps 2022.
Ah, c'est quand même assez court.
C'est court. Ouais. Dans l'idéal, il aurait fallu expérimenter pendant 3 mois.
Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Bah, on est dans le rêve, donc. On est sûr.
Donc, voilà. Le rêve, c'est d'expérimenter ça pendant 3 mois et de prouver que ça a un impact, que ça a un intérêt et que c'est porteur pour les habitants et par les habitants.
Et que ça vaut le coup d'être durable plus qu'éphémère, du coup.
Voilà.
Qu'on peut créer des cantines populaires dans toutes les MPT de France. Allez, rêvons.
Oui. Enfin, encore une fois, ça peut servir à beaucoup de choses. On avait imaginé aussi... L'idée, c'est aussi que si un investissement doit être fait à un endroit, qu'il puisse servir au maximum. Je me réfère toujours à l'utilisation des cantines, des cuisines de cantines collectives, des lycées, des collèges, qui sont en moyenne utilisées 140 jours par an. Et qui, à partir de 15 heures, sont vides. Donc, l'idée, c'est que si on investit un nouvel outil, c'est que lui, il serve toute l'année, tout le temps et pour tout le monde. Donc, au-delà d'un service de restauration, il y a aussi la capacité de produire de l'aide alimentaire. Plutôt que d'être le déversoir du trop-plein de l'agro-industrie, eh bien, donnons-nous les moyens de produire grâce à des ateliers de citoyens, grâce à du bénévolat. On transfère le bénévolat de l'aide alimentaire sur de la production culinaire de qualité pour donner à manger à ceux qui en ont besoin. Sans distinction. On peut imaginer que ça serve aussi aux étudiants.
Oui, tout à fait.
Il y a aujourd'hui des Crous qui ferment les cantines. C'est le cas à Montreuil.
Les Restos U. Ah ouais.
Personne ne se demande comment... Les Restos U qui ferment parce que les acteurs privés ont décidé de ne pas rouvrir parce que ce n'était pas rentable. Et du coup, on ferme et on ne se pose plus de questions. Où vont manger ces étudiants? Comment ils se... Et là encore, on peut les accompagner. On peut très bien manger, se faire plaisir, déconner, faire une disco soupe, réviser en mangeant et créer un espace où la question de l'alimentation n'est pas une préoccupation quotidienne pour les étudiants qui en ont besoin, par exemple.
C'était le rêve de la cantine populaire éphémère, rêve qui deviendra, on espère, un jour réalité.
Bien sûr.
Et on retrouvera l'Université des sciences et pratiques gastronomiques le 25 avril. Merci Xavier Hamon.
Merci. Ouais.